Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro du podcast finalement de L'Œil Carnivore, une grande nouveauté pour ce blog et pour cette équipe que j'accueille ici autour de la table. On commence par Damien, aka le Poulpe Vert.
Bonsoir à tous.
Qui est notamment à l'initiative de ce projet aussi, on en parle depuis un petit temps déjà.
Ah oui, ça fait un petit moment. Effectivement, moi j'ai été invité à eSport Talk auquel vous participez tous les deux, toi Sergio et Matt. Et je suis très content de enfin pouvoir faire un podcast carnivore et
Mais voilà, on est enfin dedans, les deux
dans
pieds dedans.
Dans ce nouveau studio tout frais.
Mais il nous fait notre promo,
Un grand merci à Sergio de nous accueillir.
On va être obligé de te donner des chips.
Voilà, un studio de podcasting et d'enregistrement permanent dans lequel on vous accueillera de façon, n'est-ce pas, régulière et permanente, comme on le dit. Ce sera chauffé parce que là, on est en train de se les geler un tout petit peu.
Moi, pas trop.
Voilà, c'est mat, quoi. À ta gauche, Damien, on accueille également Luc. Luc. Également rédacteur sur le blog de L'œil carnivore, n'est-ce pas? Donc toi, tu nous parleras de plein de petites choses intéressantes aussi, des plus décalées qui soient ce soir. Et puis, bien, on ne peut pas passer à côté, c'est Sylph alias... C'est pas alias Seb, j'ai fait l'erreur encore une fois, c'est Seb alias Sylph.
Voilà.
Voilà, qui va nous parler aussi de plein de belles choses. Alors, si vous ne connaissez pas L'œil carnivore, eh bien, on parle de films, d'animation, de jeux, on lance des débats, etc. Bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la culture, voire même à la culture numérique, on peut le dire aussi un peu geek. Mais je ne sais pas si vous prenez
le pas de cet adjectif. L'œil carnivore, c'est votre dose quotidienne de pourquoi pas. Et en gros, on parle de ce qu'on aime, ce qu'on voit à droite à gauche et qu'on a envie de partager avec les gens qui nous entourent.
Mais comme vous êtes des gros geeks, vous parlez de culture geek.
Bah ouais, majoritairement, mais ça, c'est pas seulement ça. Hein. Je crois qu'on s'ouvre à pas mal de choses, aussi au niveau musique, au niveau littérature et autres.
Culture au sens culture, large du terme,
voilà,
on l'aura
compris. C'est en fait ce qu'on aime.
De toute façon, avec dans votre équipe, le fils de Dark Vador, vous pouvez être geek. Quoi.
Et vous aurez compris que l'invité du jour, c'est en effet Matt, chroniqueur sur Sparotto et troll en puissance.
Bonsoir.
Allez, on s'attaque tout de suite au film dont on va parler. Je ne vous dis rien tout de suite, comme ça tout le monde est content. On y va. Django Unchained, le dernier Tarantino que Sylph a déjà eu l'occasion de voir en avant-première. Alors d'abord, je sais pas comment il a fait pour le voir en avant-première.
Ouais, je pense que
tu vas tout nous dire.
Pas le révéler, mais
d'accord, il a été au States, voilà. Ok,
voilà, bien Tarantino.
En tout cas, ça a l'avantage.
C'est cher le ticket.
Ouais. Mais il va pouvoir nous en parler.
Mais ça valait la peine.
Il va pouvoir nous en parler. Alors présente-nous un petit peu le pitch.
Django Unchained, donc c'est le dernier film de Tarantino, comme tu l'as dit. C'est un film dans lequel on retrouve pas mal d'acteurs assez connus, comme Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, etc. Et le pitch du film, c'est que...
C'est la BO du film.
Le pitch du film, c'est que en fait, Django est un esclave qui se fait libérer par un mec qui s'appelle Schultz, qui est un gars qui se fait passer pour un dentiste et qui en fait est chasseur de primes.
J'ai toujours eu peur des dentistes, moi.
Effectivement, il y a de quoi, parce qu'ils sont sacrément redoutables. Et le délire, c'est qu'en fait, Django, avec l'aide de son pote, vont aller délivrer sa copine, en fait, qui s'appelle Bromilda.
Et quel doux nom.
Qu'est-ce que c'est que
Bromilda?
Quel doux nom, effectivement.
Quel Bromilda?
Bromilda en question, elle est détenue par Leonardo DiCaprio, qui campe une espèce de chef de plantation complètement cinglé.
Alors on m'a dit qu'il était un vrai bâtard dans le film. Est-ce que c'est vrai?
Alors c'est marrant parce que les éclairagistes ont fait un assez beau boulot de couleur sur justement ce personnage là et il est vraiment défini comme le mal, le démon, avec des couleurs rouges toujours derrière lui et des choses comme ça. C'est assez amusant de constater ça dans le film d'ailleurs. Sinon, que dire d'autre? Comme d'habitude avec Tarantino, c'est violent, les répliques fusent, il y a des trucs à mourir de rire. Enfin, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé autant au cinéma. Et en même temps, c'est super bien fichu, la BO est excellente.
On écoute un extrait d'ailleurs derrière.
Voilà. Et que dire de plus qu'il faut vraiment.
Est-ce qu'on pourrait le comparer à un autre Tarantino existant, peut-être au niveau des effets, au niveau du caractère, de l'ambiance, de l'humour.
Est-ce que c'est un film à sketch comme ses derniers films ou est-ce qu'on est plus proche d'un Reservoir Dogs?
C'est bizarre. C'est-à-dire que on est presque dans un croisement entre les deux. C'est-à-dire que c'est divisé en deux parties distinctes. C'est vraiment lié, contrairement à son dernier, dont je me rappelle plus du nom, Inglourious Bastard, qui lui était vraiment divisé en sketch. Là, on a vraiment une vraie histoire qui dirige le tout, un vrai scénario. C'est un vrai western. comme ceux dont il s'est inspiré, avec Sergio Leone, etc. Enfin, voilà.
Ouais, c'est un western spaghetti à la sauce Tarantino.
Donc il n'y a pas d'interlude, quoi.
Mais c'est bizarre, C'est vraiment à voir, c'est pas vraiment un ovni comme pouvaient l'être certains de ses films, mais en tout cas, il y a quelque chose qui. Il y a une ambiance qui se dégage de certaines scènes du film qui font vraiment penser à ces vieux films de western des années 70. Et donc
comme ça, comme à son habitude, quelque part, il prend un style et il le refait à sa manière. On le voit dans Pulp Fiction, on le voit dans Inglourious Basterds, on le voit dans Boulevard de la Mort, on le voit, etc. Mm-hmm. C'est-à-dire, il va reprendre un style de film et il va le faire à sa forme. Est-ce que là, c'est réussi? Est-ce que là, vraiment, tu le conseilles de le voir au ciné ou juste à la télé? Est-ce que
non, c'est vraiment un film à voir au ciné. Ouais. Ouais, ce serait dommage de se priver de ça, quoi. C'est vraiment. Comment dire, il a vraiment, au niveau plastique, etc., le film est vraiment très beau, comme Tarantino le fait toujours, mais en plus, il y a vraiment des références. Pour les gens qui connaissent bien les westerns, etc., c'est bourré de références, bourré d'anecdotes, bourré de caméos. Enfin,
c'est quoi un caméo?
C'est quand t'es un acteur.
L'apparition d'un des membres, soit de l'équipe, soit de quelqu'un qui est connu, qui vient juste poser sa tête dans le film et qui apparaît en plantant le rôle d'un personnage. Il y en a pas mal d'ailleurs de Peter Jackson dans le Seigneur des Anneaux.
Ouais, je viens de voir, ouais, il apparaît dans tous les Seigneurs des Anneaux. Ouais. Ouais.
Un peu comme Hitchcock faisait dans ses films.
C'est ça.
Un peu ça. Okay. Voilà.
C'est ça. Et sinon, le film est une critique assez acerbe, je trouve, du racisme et de l'esclavagisme. Et d'ailleurs, il s'est fait pas mal critiquer aux États-Unis par rapport à ça.
Ah bon ?
Donc, moi, je comprends pas trop la justification de ça, mais bon, les Américains sont toujours très tatillons sur ce sujet.
Attends, ils ont juste dit dans quel sens ils ont attaqué le film parce que le film était raciste ou bien parce que le film était trop anti-raciste ?
Non, c'est sur le terme nigger qui est utilisé dans le film, en fait.
Faut arrêter, on parle du, je sais pas moi, du western à l'époque, on appelait les noirs des niggers.
J'ai regardé il y a pas longtemps des vidéos.
Il pas fourré ça.
Ouais, j'ai regardé il y a pas longtemps des vidéos de CNN, la chaîne conservatrice aux États-Unis, c'est CNN ou NBC, je sais plus. Non, c'est CNN, je crois.
C'est une des deux, sûrement.
C'est Fox. Fox.
Fox.
Et sur Fox, les présentateurs de télé disent the N-word. Ils disent pas nigger à la télé, ils disent the N-word. Les mecs au JT.
Fausse petit bon ouais,
c'est incroyable.
C'est toujours merveilleux.
Bon, alors, on dit souvent, en tout cas j'ai lu, que ce serait le dernier film de Quentin Tarantino. Rumeur ou pas.
Ah bon ?
Foutage de gueule.
C'est vrai ? Bah non, il doit faire une suite à Kill Bill.
Il a encore d'autres styles à décortiquer.
Je sais pas si Damien qui lâchait ça sur les films d'animation aussi, entre Tarantino et l'animation.
Non, le problème c'est que Tarantino se rend compte que la plupart des productions maintenant hollywoodiennes se font en numérique. Et lui, ça le fait chier le numérique. Il aime la plastique du film. Il aime le grain. Il aime ce qu'on peut faire au niveau artistique, au niveau de la pellicule. Un peu comme les musiciens vont aimer le vinyle ou des choses dans ce genre-là. Et donc, il dit, si je suis obligé de tourner en numérique, j'arrête. Bon, maintenant, à mon avis, il a les moyens de continuer à tourner en pellicule.
Produire ses propres pellicules.
Et d'un autre côté, maintenant, le numérique a tellement évolué. Une bonne caméra numérique, comme la RED, par exemple, ou des choses dans ce genre-là, avec les bons filtres qu'ils font, sont... maintenant, on commence quand même à avoir une qualité qui est proche du film. Alors, le gros problème en fait du numérique, c'est surtout dans les basses lumières ou dans les hautes lumières, parce que tout de suite c'est brûlé ou alors c'est noir, et c'est un des gros problèmes numériques. Maintenant, on commence à faire des capteurs qui sont capables vraiment de capter toute cette sensibilité, plus les différents effets de rajouter du grain et des choses dans ce genre-là, on peut commencer à avoir un effet qui est quand même assez proche de la pellicule. Mais on pourra en reparler d'ailleurs dans The Hobbit, parce que c'était une des critiques autour de The Hobbit. Et je comprends Tarantino, mais c'est de la même façon que les esthètes de la musique vont aimer les vinyles, quoi.
Il s'arrêtera pas à ce film-là.
C'est presque certain. Mais justement, tu parles du filtre, mais Tarantino, en général, son image, elle est assez dépourvue de filtre. C'est de la lumière, enfin, c'est plutôt de la mise en scène et de la lumière qui le caractérise, pas du tout des filtres.
Pas tant que ça. En fait, c'est vrai que ça a l'air assez cru, etc. Mais il y a quand même énormément de travail. Justement, filtre ne veut pas dire, je sais pas moi, si on prend les Harry Potter, un filtre bleu qui est dessus. C'est de l'étalonnage. Et ça, j'espère qu'on en sortira un de ces quatre. Je pense que ça se voit de moins en moins. Mais c'est vrai qu'à une époque, tous les films hollywoodiens d'un certain style étaient tous bleus ou verts, etc. Quoi.
Bon, c'est un sujet en tout cas qu'on aura l'occasion d'aborder plus tard, n'est-ce pas ?
Oui.
On continue tout de suite avec, justement, tu parlais de The Hobbit, ça va ? Tout de suite, on passe à ça, je sais pas. Un grand merci à toi, Sylv, d'avoir vu ce film en avant-première pour nous.
Donc, tu le conseilles, hein, vraiment.
Ouais.
en ce début d'année, c'est vraiment sympa de voir un film comme ça. C'est vraiment sympa de voir un film qui sort un petit peu des canevas et... qui sort un petit peu des canevas et surtout qui, enfin voilà, qui est un vrai bonheur à voir.
Et par rapport à Inglourious Basterds que tu avais pas trop aimé,
j'ai détesté Inglourious Basterds.
D'accord. Et là vraiment chapeau quoi.
Là, je retrouve vraiment ce que j'avais apprécié dans Kill Bill ou dans Reservoir Dogs ou dans Pulp Fiction, des choses comme ça, c'est-à-dire un film dans lequel il y a une vraie structure scénaristique, dans lequel il y a vraiment des mises en scène, dans lequel il y a un vrai suspense. Et voilà, je peux que le conseiller. C'est vraiment du bonheur. On sent que Tarantino s'amuse.
Et très drôle, quoi.
Django Unchained, ouais. Donc un film à découvrir dès aujourd'hui. On est le 16 janvier 2013 déjà, je ne me cours pas, on n'est plus en 2012, dans les cinémas. Et on vous conseille d'aller le voir et forcément de le voir dans les meilleures conditions possibles.
Est-ce qu'on vous conseille d'aller le voir? Je ne sais pas, moi.
Je pense qu'il nous l'a bien fait comprendre. On vous l'avait promis, on va parler également de The Hobbit, un voyage inattendu. Je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, Damien.
Bonne question.
Unexpected Journey.
Ah voilà, Unexpected Journey. J'espère que quelqu'un me dise parce que je suis vraiment une vache espagnole en anglais. Alors, The Hobbit.
Voilà, normal, t'es espagnol.
Il y a plein de choses à dire là-dessus. Il y a plein de choses à dire là-dessus, n'est-ce pas, Matt? On commence avec toi, Damien, qui a un petit peu fait le topo global du film.
Oui, le topo global, c'est vite dit, mais je pense que bon. Ceux qui nous écoutent connaissent déjà l'œuvre de Tolkien, ont déjà vu Le Seigneur des Anneaux. The Hobbit, c'est tiré du premier bouquin en fait qu'a écrit Tolkien, qui à la base, il l'a écrit pour ses enfants, donc d'où le ton beaucoup plus enfantin que peut l'être Le Seigneur des Anneaux. Et donc l'histoire, en deux mots, c'est Gandalf qui frappe à la porte d'un hobbit, Bilbo. Et
Bonjour.
Voilà, en fait, il l'entraîne dans une aventure avec une bande de nains, tout ça pour aller récupérer un trésor qu'a volé un terrible dragon.
Un trésor, oui, non. Pour aller récupérer le royaume des nains. Exactement.
Oui, le royaume des nains, d'accord, mais n'empêche qu'il est assis sur un joli tas d'or quand même.
Ah, oh, mais ils s'en foutent du trésor, ils veulent récupérer le royaume.
Oh, c'est des nains quand même, faut se méfier. Alors, donc, The Hobbit, même si à la base, c'était pas sûr que Peter Jackson, donc le réalisateur, réalise The Hobbit. On a pensé d'abord à Sam Raimi, puis Guillermo del Toro. Au final, c'est effectivement lui qui l'a fait. Et donc, il a signé pour 3 épisodes.
Alors ça, c'était la grosse blague sur le web quand même. Pourquoi 3 films sur un bouquin qui est 3 fois moins gros que Le Seigneur des Anneaux qui lui est en 3 volumes?
Eh bien, moi, j'ai une réponse. Mais d'abord, je laisse réponse Damien.
Bon, alors, pourquoi 3 parties? Alors, en fait, à la base, il était découpé en 2 parties. C'est ce qui était prévu lorsqu'ils ont écrit le script du scénario. Et il y a, alors je ne sais plus, mais je crois que c'est en juillet dernier, donc il y a très très peu de temps, ils ont décidé d'en faire un troisième qui fait la liaison quelque part entre The Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire là-dedans, ça me paraît très bizarre, surtout que chaque film, a priori, là, le premier il dure déjà 2h45, si le deuxième est pareil, je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans le troisième. Mais en même temps, pour moi, c'est un des points forts de The Hobbit, c'est-à-dire que 2h45, ça peut paraître très long, mais en même temps, on prend vraiment le temps de rentrer dans l'histoire, de vraiment la dérouler et de faire en sorte qu'on est vraiment avec les personnages. Il y a très peu en fait de coupures et de choses qu'on pouvait d'allitérations qu'on pouvait voir dans Le Seigneur des Anneaux.
Alors plantons un petit peu le décor. Qui l'a vu autour de la table? Moi, je l'ai vu. Matt, on l'a vu ensemble. Damien, tu l'as vu? Luc,
je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu encore.
Donc il y a que Luc qui ne l'a pas vu.
Ouais.
Ok, voilà. Ça va.
Moi, je l'ai vu, alors, parce que...
Dans quelles conditions? Parce que, voilà, nouveauté, qui amène ce film au cinéma, c'est qu'il y a au moins 4 à 6 versions, je pense. Entre la VO, la VF, le 24 images secondes, le 48 images secondes, on va en parler, la 3D ou pas la 3D, il y a quand même beaucoup de versions différentes.
C'est clair qu'il y a beaucoup de versions différentes, et alors, bah, moi, je l'ai vu en 48 images par seconde, en 3D et en VF.
Ok, c'est le bourgeois, quoi.
Alors, en VF...
J'ai toutes les options qui servent quasiment à rien de mon point de vue, et t'as été le voir en VF, quoi. C'est-à-dire, le seul truc important, c'est aller le voir en VO. Mais
alors, le problème...
En 3D, en VF.
Non, mais le problème, c'est que j'étais en France et majoritairement, tu les vois en...
C'est un culte.
Voilà. Alors, moi, mon expérience, parce que ça a fait beaucoup débat autour justement de la 3D et notamment du HFR, c'est-à-dire du
48 images secondes.
Voilà,
c'est ça
du 48 images secondes. Beaucoup de gens ont critiqué plusieurs choses. D'abord, le rendu image vraiment type vidéo. Et une autre impression qu'ont eu certains spectateurs, c'est-à-dire que les personnages avaient l'air de se déplacer plus rapidement. En tout cas, ils ont eu cette impression au début.
Ouais, apparemment, ça donne un aspect beaucoup plus fluide à l'image, proche de ce qu'on peut voir en télévision.
En fait, non. Il y a deux choses à bien différencier. Il y a d'abord, effectivement, la qualité d'image qui est tout simplement remarquable. Franchement, ceux qui l'ont vu au ciné, on ne peut rien dire sur la qualité d'image. C'est quelque chose de... qu'on a rarement vu. D'ailleurs, ça pose même des problèmes en post-production et en maquillage, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Tout doit être nickel. Si on fait la moindre erreur, ça se voit tout de suite. Les esthètes en ont vu plein.
Moi, j'avoue, c'est un peu surréel, du coup. On parle du Seigneur des Anneaux, on est d'accord, mais tu vois, si tu prends juste un personnage clé, est-ce que d'autres films sont prévus en 48 images secondes, par exemple?
Alors oui, il y a la suite d'Avatar qui risque d'être en 48, voire même en 60 images par seconde. C'est la surenchère, c'est celui qui dira le plus haut.
Ils abusent.
Moi, je suis désolé, mais je trouve que tout ça sert à rien.
Alors, non. Non, franchement, non. Je passe sur la 3D qui, effectivement, rajoute pas grand-chose à part l'effet, on va dire, fenêtre sur un monde et qu'on voit. En fait, ça m'a fait un peu l'effet quand on joue à la Nintendo DS. 3D, où on a une sorte de 3D en profondeur. C'est exactement l'effet que j'ai eu en regardant ce film. Je l'ai vu en bonne condition, hein. Vraiment, j'étais en plein milieu de la salle, à la bonne distance de l'écran, j'étais vraiment nickel placé. Je pense que ça joue beaucoup aussi sur la perception qu'on peut avoir de la 3D. Mais franchement, concrètement, ça rajoute pas grand-chose. Contrairement au film dont on va parler après, l'Odyssée de Pi, là, je trouve que oui, c'est sympa, c'est un peu gadget. C'est de la même façon que pour la Nintendo 3DS. Voilà, c'est oui, oh, tout d'un coup, il y a la 3D. Bon, ok. Par contre, le 48 images, là, oui, pour moi, ça rajoute vraiment quelque chose. D'abord, on a une netteté d'image qui est fabuleuse. Ça permet des mouvements de caméra qui étaient flous, notamment dans le Seigneur des Anneaux. Si vous voyez par exemple la scène où il y a Saruman, où on est chez Saruman et on plonge en fait dans l'espèce de cratère et on voit les Uruk-hai qui sont déterrés, etc. Par exemple, cette scène est très floue en fait si on regarde l'image en Blu-ray, etc.
C'est le motion blur,
voilà. Là, en fait, on peut avoir effectivement une image nette dans tous ces mouvements-là, ce qui rend notamment la scène avec la scène des gobelins où il y a toute une poursuite, etc., hyper nette. Alors, on peut ne pas aimer, mais en tout cas, ça permet de rendre ce genre d'effet. Pour moi, et la 3D est devenue vraiment agréable parce que ça ne m'a pas gêné pendant les 2h45 parce qu'il y avait justement cette qualité d'image et donc la stéréoscopie était très bonne et pour moi en fait la 3D avec le 48 images est une bonne solution.
Ok,
même
en
si
tout cas,
ça ne rajoutait pas au film.
C'est clairement à découvrir parce que c'est une nouveauté, donc ça vaut la peine de le regarder pour voir un peu ce que ça donne et ce qui vient dans le futur. Parlons un petit peu du scénario justement. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la série, est-ce que tu le conseilles d'aller le voir après Un Seigneur des Anneaux sans avoir vu Le Seigneur des Anneaux? Est-ce que ça vaut la peine? Quelle différence il y a? Parce que moi finalement j'ai constaté, c'est un hobbit, il rejoint une communauté, la communauté a un but. Et c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression d'avoir vu des scènes dans Le Seigneur des Anneaux qui ont été transposées au hobbit, notamment dans la montagne, au moment où il se balade sur un petit col montagneux enneigé, et puis voilà, il arrive mille et une choses.
Mathieu, tu veux dire quelque chose?
Là, je pense qu'il faut revenir au bouquin, quoi.
C'est ça.
C'est pas l'écriture des scénarios, c'est pas la réalisation des films. Là, il faut en revenir au bouquin de Tolkien. Et le Hobbit, c'est un bouquin que Tolkien a écrit avant Le Seigneur des Anneaux et qui a été sa base pour écrire Le Seigneur des Anneaux. Forcément, il a repris la même structure parce qu'il voulait réécrire une quête initiatique, mais de manière beaucoup plus grande et beaucoup plus épique que le Hobbit.
Oui, et de manière générale, si on regarde les écrits d'Heroic Fantasy, c'est généralement le même principe, un héros, une quête initiatique avec un groupe qui se déplace, etc. Malheureusement, à de rares exceptions près, l'Heroic Fantasy est basé un peu sur ce principe-là. Maintenant, si vous n'avez pas vu Le Seigneur des Anneaux, aucun problème pour regarder The Hobbit.
C'est pas indispensable.
D'ailleurs, ça se passe avant, donc à la limite, si vous n'avez pas vu Le Seigneur des Anneaux, regardez The Hobbit et puis après regardez Le Seigneur des Anneaux. Bon, il va falloir quand même attendre 3 ans parce que le prochain est en décembre prochain, ouais. Décembre 2013. Donc voilà, ça sera un peu dommage.
Long, quand même.
Maintenant, moi, ma propre appréciation, et là, je vais faire hurler certains, peut-être, j'ai préféré The Hobbit au Seigneur des Anneaux.
Figure-toi que moi aussi. Je sais pas, Matt.
Les deux, ça va dans le même sens. Non, j'ai bien aimé les deux. Il y a quand même une orientation différente, je trouve.
Si... Bon, Sylve va nous départager, peut-être. Ouais. Ou nous égaliser.
Il bouillonne, là.
Moi, je trouve que The Hobbit, c'est vraiment un film comme on pouvait voir certains films dans les années 80. Et je crois que c'est pour ça que beaucoup le préfèrent au Seigneur des Anneaux, parce que le Seigneur des Anneaux est finalement un film assez moderne dans sa structure. Et The Hobbit ressemble vraiment à ces films genre les Goonies, ces espèces de films d'aventure qu'on a vraiment aimé quand on était gosse, l'histoire sans fin.
C'est la quête d'un personnage qu'on suit de A à Z, alors que dans Le Seigneur des Anneaux, les histoires divergent et on suit plusieurs histoires en parallèle.
C'est beaucoup plus. Ouais, le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de personnages, c'est un peu compliqué. Et The Hobbit, j'ai effectivement trouvé plus accessible en fait.
Peut-être plus accessible, mais aussi, je pense, plus décomplexé. Dans Le Seigneur des Anneaux, bon, faut savoir, attention, hein, c'était Peter Jackson s'attaquait quand même à un des monuments geek du cinéma, avec un budget tellement énorme que bon, le studio derrière, je pense qu'il avait les chocottes. Donc, il pouvait pas se louper, il était obligé vraiment de poser les jalons, de faire en sorte que tout le monde comprenne bien ce monde qui est quand même, même si autour de la table tout le monde connaissait Le Seigneur des Anneaux avant le film, la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler du Seigneur des Anneaux. Hein. Donc il fallait expliquer le monde, il y avait une certaine lourdeur je trouve dans Le Seigneur des Anneaux, qu'il n'y a plus du tout dans The Hobbit. Il y a une espèce de... C'est complètement décomplexé, on est complètement dans le monde directement, il y a nettement moins besoin d'explications puisqu'on a déjà vu on connaît déjà le monde et quelque part tout d'un coup on est bizarrement mais je trouve qu'on est beaucoup plus proche des personnages. Et alors là, mention spéciale au Hobbit qui est interprété par Freeman, qui est un truc
En parlons un petit peu parce que il y a plein de casse, enfin on s'est demandé souvent qui allait interpréter ce fameux Hobbit. Tu as eu tu me l'as dit hors antenne justement, quelques noms assez particuliers qui nous ont bien fait sourire.
Oui, alors au niveau du... Effectivement, alors je retrouve dans mes notes, évidemment. alors voilà, oui, on avait pensé... Alors Peter Jackson avait pensé quand même à certaines têtes qui pourraient faire sourire, et heureusement qu'on les a évitées. Alors je cite d'abord Daniel Radcliffe.
Non.
Pour ceux qui ne savent pas, c'est...
Harry Potter.
Imaginez Harry Potter. Moi, ça m'aurait fait peur quand même. Je pense que d'un, il avait pas la carrure, et de deux,
il correspondait pas, il est trop marqué.
C'est pas qu'il soit trop marqué, mais Bilbo a un certain âge quand même. C'est un personnage qui est à la base quand même installé, il est bien chez lui, etc. Même s'il a pu rêver quand il était jeune, justement, d'aventure. Radcliffe aurait été trop vieux en fait, trop jeune pour le rôle. Il aurait pas eu le visage assez marqué quelque part, etc. Je trouve que ça n'aurait pas
fonctionné. Il fallait qu'il ressemble à l'acteur. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue le Hobbit dans.
Fait un gros effort. Freeman ressemble pas vraiment au Bilbo du Seigneur des Anneaux.
Et comment il s'appelle cet acteur déjà?
Martin Freeman.
Comment le gars
Dans Le Seigneur des Anneaux.
Yann Holm.
Yann Holm c'est Gandalf.
Oui.
Non, je sais plus. Bon bref, je
veux prendre
peut-être des gros fails. Excusez-nous.
Allez voir sur Google.
Il est tard, on a bu des bières.
Wikipédia, The Bilbo, The Hobbit.
Voilà.
Alors donc Daniel Radcliffe, ça aurait fait peur quand même, je pense. Shia LaBeouf. Alors, ça aurait fait peur.
Bah, lui, déjà qui nous a pourri Indiana Jones.
Ah non, Indiana Jones.
C'est lui qui jouait dans Transformers, non?
Ouais. Oui, c'est lui dans Transformers.
Mais ça aurait été horrible. Faut pas y penser.
S'il avait pas un rôle dans Constantine aussi, je me trompe.
Constantine? Non, c'est l'autre. C'est Keanu Reeves.
Dans Constantine, au début du film. Je sais pas s'il a un rôle par la suite.
Est-ce qu'il meurt au début de Constantine?
Je pense. Ah non, pas du tout. C'est l'apprenti de. Justement.
Ah non, parce que s'il mourait, j'aurais bien vu.
Peut-être, t'as peut-être raison.
Ouais, si. Il conduit la bagnole et c'est l'apprenti de Keanu Reeves.
Ouais. Et il y en a eu un certain nombre, mais là j'ai
cité Michael J. Fox
les plus connus et Tobey Maguire. Donc pour ceux qui voient pas qui c'est celui qui jouait Spider-Man. Là, par contre, ça aurait pu avoir un intérêt. Bon. Là, je dis, à la limite, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que...
trouve bien tolérant.
Ouais. Enfin, par rapport aux deux autres.
C'est... Oui, non, mais par rapport aux c'est deux autres, il n'y a qui... pas photo, quoi. Franchement...
C'est des mecs qui ont la tête marquée par des rôles qui sont bien particuliers, et je trouve que pour faire un nouveau personnage comme Bilbo... il fallait quelqu'un qui, dont celle de la tête soit pas trop connue, et en plus c'est ce qui a, je trouvais ce qui était super important, c'est pour ça que finalement Radcliffe c'était pas un si mauvais premier choix, c'est qu'il fallait un anglais parce que les Bilbo, oui. les Hobbits sont quand même vachement typés
cottage anglais
dans l'image, bah dans ce qu'on imagine de l'imaginaire de Tolkien, parce que après beaucoup de gens écrivent et décortiquent l'œuvre de Tolkien, effectivement normalement les Hobbits représentent les Anglais, en fait. Ça a été écrit après la Seconde Guerre mondiale, et normalement, c'est notamment Bilbo l'Hobbit, et puis après Le Seigneur des Anneaux, une espèce d'allégorie autour de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, effectivement, normalement, le Hobbit est l'Anglais qui aime bien son cottage et sa petite pelouse, etc. Et donc là, on le retrouve. Voilà. Et c'est vrai que Martin Freeman est parfait dans ce rôle-là. Alors... si vous voyez pas à quoi il ressemble, notamment on a pu le voir dans Sherlock, superbe série anglaise,
qui joue Watson, tout à fait.
Et qui joue Watson, c'est un Sherlock revu au goût du jour, ça se passe maintenant, et si jamais vous avez pas vu cette série, c'est à découvrir, c'est vraiment bien.
Il me semble d'ailleurs que l'acteur qui joue Sherlock, on va le retrouver cette année-ci
dans Star Trek.
Dans Star Trek aussi, ça
comme peur, là.
Il aura des oreilles de Mickey.
C'est ce que j'allais dire.
Non, il a pas d'oreilles. Il a pas d'oreilles de Mickey. Il reste bien Benedict Cumberbatch, le nom le plus horrible après le. Mais ouais, non, il est dans Star Trek.
Une petite question pour terminer, Damien. Donc qui fait un petit peu le topo sur ce The Hobbit. Un voyage inattendu, je le dirai pas en anglais deux fois, n'est-ce pas? Faut-il avoir lu le bouquin, donc The Hobbit, écrit par Tolkien, pour profiter peut-être plus du film? Ou alors, conseilles-tu à des gens comme moi, qui n'avaient pas lu The Hobbit, j'ai lu le reste, mais pas ça, de regarder les films, peut-être pour laisser découvrir l'histoire?
Bah, The Hobbit, c'est un petit bouquin, hein, ça se lit rapidement, bon après, ça dépend des
lecteurs, mais c'est vraiment, fond, c'est de la taille d'un petit...
Franchement, moi, The Hobbit...
Est-ce qu'on spoil les films en lisant le bouquin, par
pour
exemple?
Pour être clair, The Hobbit, c'est le premier bouquin que j'ai lu. J'étais tout petit, mes parents, je devais avoir 5 ans, quelque chose comme ça.
Tout s'explique.
Bah oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Il est mignon.
Je devais avoir 5 ans et mes parents me racontaient l'histoire tous les soirs, ils me la lisaient. Et à un moment, ils ont arrêté. Et donc, ma seule solution de savoir la suite, c'était de la lire. Après, je me suis remis à oui, la voiture rouge et jaune, et etc.
Oui, hein,
j'ai fait une pause, quoi.
Ouais, j'ai fait une pause. Mais c'est vraiment le premier bouquin que j'ai lu. J'ai eu vraiment du mal. Je l'ai relu vers 14 ans, quelque chose comme ça, et je ne l'ai pas relu depuis. Mais quelque part, alors effectivement, il y a plein d'ajouts dans l'histoire. Il y a quelques ajouts, etc. Il y a des ajustements.
Justement, ça, c'est les critiques qu'on peut apporter à Peter Jackson. C'est qu'il y a quand même bonne chier de scènes qui ne sont pas dans le bouquin et qu'il a rajouté pour faire bosser ses acteurs favoris, je crois. Hein, parce que bon, Saruman qui s'invite dans le film, il n'est pas là dans le bouquin. Oh. Arwen, pas là dans le bouquin.
Ouais, c'est des petits flashbacks, enfin, ou des apartés comme ça, non? Ouais,
c'est. Quand même presque 40 minutes de film qui ont été rajoutés et qui sont pas dans la première partie du bouquin.
Il faut bien tenir 3 films.
Il hein. Faut bien tenir 3 films.
Mon père avait d'ailleurs trouvé que c'était un peu bizarre de voir ces acteurs après Le Seigneur des Anneaux qui finalement paraissent plus vieux que dans Le Seigneur des Anneaux alors que ça se passe finalement avant.
Ouais, tout à fait.
Oui, maintenant je peux comprendre Peter Jackson. Je peux comprendre pourquoi Peter Jackson fait ça. Tout simplement d'ailleurs, il essaye de faire la liaison avec Le Seigneur des Anneaux, ce qui peut s'expliquer.
Mais là, c'est un peu dans la douleur. Hein. C'est vraiment flagrant.
Oui, mais les scènes rajoutées, je trouve qu'elles sont assez subtiles au final.
Pas du tout d'accord. Pourtant, j'aime bien le film. Hein. Je suis vraiment un bon clair. J'adore le film. Hein. Je vais adorer les deux suivants. Mais là, vraiment, non. Subtil, loin de là. Elle passe dans le film, ça passe. On les regarde sans être gêné, mais subtilement, non. C'est plutôt justement gros comme un truc au milieu du visage.
Oui, d'accord, mais
est-ce que tout le film
n'est
pas un peu comme ça?
Non. Ah non.
Moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était assez premier degré au final.
Oui, c'est un film assez premier. Bah, 13 années 80, hein. Je pense que je suis d'accord avec toi. C'est un film décomplexé, 13 années 80. C'est sans doute pour ça qu'on l'aime beaucoup. Maintenant, voilà.
On a, il y a le film est peut-être premier degré, j'ai pas vu ça comme ça, mais en tout cas la performance du Hobbit de Freeman fait que ça on arrive à quand même prendre du recul dessus, parce que lui il prend énormément de recul par rapport à son rôle et il arrive à lui donner vraiment un sens.
Ah bah, tout comme Django, c'est un film qui est hyper plaisant à regarder, dans lequel on s'ennuie pas et dans lequel il se passe plein de choses et les dialogues sont vraiment parfois savoureux, donc pourquoi s'en priver quoi.
Alors mention spéciale aussi aux nains et notamment à Thorin le chef des nains qui est alors là dans l'imaginaire qu'on a au niveau des nains et la façon dont ils sont généralement représentés, et d'ailleurs dans le Seigneur des Anneaux c'est un peu comme ça, là pour une fois il y a un vrai travail et je trouve qu'ils sont magnifiques. Et notamment le prince des nains fait vraiment prince et là vraiment c'est magnifique,
c'est le nouveau badass de cette saison-ci en tout cas, hein.
Et autre chose, petite anecdote autour du film, c'est donc en gros les principaux protagonistes c'est Bilbo, les nains et Gandalf. Alors il faut savoir que Gandalf en fait pour des problèmes de taille, car normalement un humain est beaucoup plus grand que les autres, s'est retrouvé à tourner quasiment tout le film tout seul en fait. Les hobbits, le hobbit et les nains jouaient d'un côté et en même temps lui jouait de l'autre côté dans une scène sur fond vert.
Le marginal, le pauvre.
La scène. Et il paraît d'ailleurs qu'à un moment sur une scène il a complètement craqué. Il a dit qu'il n'était pas acteur pour faire ça parce que en gros il jouait sur fond vert avec des images de chaque nain qui s'allumaient en fait en fonction de qui parlait et pour qu'il puisse réagir. Quoi. C'est vrai que ça doit être très troublant et surtout les autres s'amusaient d'un côté parce qu'ils étaient nombreux et de l'autre côté lui il était tout seul. Voilà.
Bon. The Hobbit, je pense qu'on a fait le tour de la question quand même.
Oui, en tout cas on le conseille et moi je le conseille malgré tout en HFR, c'est-à-dire en 48 images par seconde en 3D. C'est quand même. Ça vaut le coup.
Si vous avez l'occasion d'aller au cinéma, de le découvrir encore, parce que je ne sais pas s'il est toujours en programme.
Non, il va tourner, oui.
Voilà, donc allez le voir, The Hobbit, un voyage inattendu, la suite, si on veut, du Seigneur des Anneaux, qui se déroule avant l'histoire du Seigneur des Anneaux. Grand merci Damien, on va tout de suite passer à l'Odyssée de Pi. L'Odyssée de Pi. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de trailers au cinéma, notamment, donc je ne sais pas qui l'a vu et qui va en parler autour de la table.
Alors moi je l'ai vu,
je l'ai vu aussi, ouais.
C'est ça. Ouais.
Moi je l'ai pas vu.
Moi j'ai vu le teaser. Pas vu.
Pareil le teaser.
Moi aussi j'ai vu le teaser.
Alors on est 3 contre 2, Sif ou Dam.
Le teaser était vachement bien. Ouais, moi j'ai adoré.
Le teaser vend bien le film.
Mais quoi on parle ?
En fait, moi, j'ai pas vu le teaser. Je connais surtout le réalisateur pour Tigre et Dragon et quelques autres films, Brokeback Mountain, etc.
Et Hulk.
Moi je l'ai pas vu en 3D parce que j'étais le voir avec quelqu'un qui n'aime pas la 3D, ce que je peux comprendre. Et c'est peut-être un de mes regrets, parce que pendant tout le film, j'ai eu cette impression de rater quelque chose. Maintenant, au niveau scénario...
J'en parlerai, mais effectivement, je pense que c'est un des rares films qu'il faut voir en 3D.
Oui, ça m'a fait penser à ce point de vue-là, à Hugo Cabret, dans lequel on voit vraiment que certaines scènes sont à la limite de la compréhension en 2D, en fait. Et bon, ben voilà. Sinon, au niveau du speech et du scénario, je dois bien admettre que j'ai vraiment du respect envers le réalisateur, parce qu'adapter une histoire comme ça au cinéma, c'est loin d'être évident, parce que finalement, dans ce film, il se passe pas grand-chose.
Alors là, je suis pas forcément d'accord.
Ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire qui peut vite devenir chiante. Vite être tirée en longueur. Et que là, on passe 2 heures devant le film à voir un gars finalement qui se retrouve perdu en mer et dans lequel on s'ennuie pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu à la prouesse du film. On est vraiment plongé dans la tête du personnage. On vit un petit peu ses émotions, son désespoir et tout ça. Et finalement, c'est un film. Moi, personnellement, que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai trouvé qu'esthétiquement, déjà, il y a des choses magnifiques.
Ah oui, ça, c'est...
Ça, c'est pas trop enfantin, ou Disney, on est gentil, ça va être une belle histoire qui va faire pleurer, ou pas ?
Non, mais en fait, je pense que le film a été mal pitché. Soyons clairs, pour moi, quand je... À la base, je voulais pas aller le voir, entre guillemets, pas aller le voir, mais je pensais le voir à la télé ou etc. Je pensais pas aller le voir au cinéma. Et puis ma copine m'a dit si, allez, on va aller le voir. Alors j'ai fait d'accord. Et heureusement, on est allé le voir en 3D. Et le pitch était vraiment pour moi mauvais parce que en gros, on disait c'est l'histoire d'un garçon qui est tout seul sur une barque avec un tigre. Et donc raconté comme ça, tu te dis je vais me faire chier pendant
3 heures dessus.
Ouais, c'est exactement comme ça que j'ai compris le film. Ouais. Et j'ai compris mon erreur quand justement on allait voir Le Hobbit avec Sergio et qu'on a vu le trailer.
Mm-hmm.
Et là, 3D, j'ai compris mon erreur. Mais quand j'avais lu les descriptions et les pitchs sur internet, etc., pour aller voir le film, j'étais pas du tout motivé. Il aurait fallu que j'aie une copine qui me motive pour aller voir le film. Tu vois,
voilà. Et donc, en gros, l'histoire, c'est effectivement un jeune homme. Puis ça raconte en fait l'histoire de ce jeune homme, de son enfance à l'histoire qui lui arrive, même d'ailleurs.
En fait, c'est un Indien dont le père, qui tient un zoo, décide de partir aux États-Unis parce que ça marche plus, le business ne marche plus. Et donc,
c'est à la fin, en fait, de la colonisation française à Pondichéry.
Voilà. Et en fait, ils partent en bateau
pour le Canada,
avec tous les animaux et tout ça. Et le bateau, chavire. Ouais, c'est ça. Et en fait, d'ailleurs, cette scène-là est juste...
Cette scène, en fait...
Elle est magnifique.
Ce qui est absolument hallucinant avec l'Odyssée de Pi, c'est qu'il y a vraiment des images qui restent. Il y a des choses, notamment une des images qui reste, c'est lorsqu'il est dans l'eau, en voyant le bateau qui sombre. Celle-là, elle est tout simplement magnifique.
Elle est dans le trailer. Sergio, on l'a vu.
Cette impression-là, tu peux la comparer à un autre film que tu connaîtrais peut-être.
Titanic. L'impression qu'on a...
Oui, non, mais je pense à Titanic. La
manipulation des images 3D et la manière qu'il l'a faite de cette manière-là,
oui,
c'est Tintin. Il n'y a pas d'autre film.
C'est vrai qu'il y a un côté Tintin, mais en fait, pourquoi cette image est tellement forte quand tu as vu le film, c'est parce que, en fait, c'est en pleine tempête, ça part dans tous les sens, et vraiment, la tempête est super bien rendue, vraiment cette impression de tempête, là tu te dis mais comment ils vont survivre au milieu de ce truc, et tout d'un coup en fait il est sous l'eau, donc tout d'un coup il y a un calme qui s'opère et là il voit le bateau qui coule, et c'est pour ça que cette image est aussi forte. On part d'une tempête, du chaos, etc., et tout d'un coup il y a cette image calme. Alors il y en a plein d'autres, hein, d'images comme ça assez magnifiques et qu'on retrouve à travers le film, mais je vais revenir quand même sur l'histoire parce que comme tu la pitch, ça donne pas plus envie. Et pour moi, là où j'ai vraiment... Je me suis dit, mais il y a quelque chose en plus dans ce film, c'est quand même tout le début qui raconte son histoire. Et là, on retrouve en fait vraiment quelque chose de la littérature indienne, ce qui est d'ailleurs assez étonnant puisque l'écrivain qui est à la base du bouquin, c'est un Canadien. C'est Yann Martel, je crois. excusez-moi. C'est Yann Martel. Vérifiez s'il vous plaît, mais
oui, que quelqu'un prenne ses notes.
C'est Yann Martel.
C'est Yann Martel, c'est ça. Je me trompe pas. Donc c'est Yann Martel. Le réalisateur, c'est Ang Lee. Donc c'est un réalisateur américain taïwanais. Et ils adaptent une histoire qui est purement indienne. D'ailleurs, j'ai vraiment retrouvé le début où on retrouve en fait quelque part les espèces d'origine, d'où viennent les personnages, la plastique. Tout le début, même si là la 3D est moins justifiée, je la trouve magnifique. Elle est très drôle quand on apprend pourquoi il s'appelle Pi, par exemple, etc. C'est très très chouette. L'image de ce Pondichéry colonial est magnifique. Il se passe plein de choses au niveau sentiment. La première fois qu'il voit le tigre, qui d'ailleurs s'appelle Richard Parker, c'est assez rigolo d'ailleurs. En fait, c'est pour ça que je dis le passage dans le bateau est un moment très important du film, évidemment, et c'est le plus long moment, mais tout le début est vraiment très chouette, et pareil, la fin vaut le détour. Je ne vais pas en parler parce que ça serait dommage, mais la fin rajoute quelque chose de très très fort au film. Donc simplement dire c'est un gamin sur un bateau qui est perdu avec un tigre, c'est énormément réducteur par rapport à l'histoire.
C'est vrai que c'est réducteur. Maintenant, il y a un aspect dont tu n'as pas trop parlé, c'est le côté onirique du film.
Oui, c'est un peu une expérience d'aller voir ce film, non? L'histoire est moins importante que l'expérience de voir le film.
L'histoire est quand même très importante parce que c'est quelqu'un qui raconte une histoire.
Le scénario est vraiment bien mené, ça c'est sûr. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce film, moi j'ai vraiment trouvé, c'est ce côté dans lequel on a l'impression d'être dans une espèce de rêve. Parce que je le disais tout à l'heure, moi c'est pas le scénario vraiment entre guillemets qui m'a... Enfin le scénario dans un terme scénaristique, mais plus dans cette espèce de côté complètement onirique dans lequel on a tout le temps l'impression d'être dans un rêve. On est vraiment dans la tête du personnage, en fait. Et c'est ça que c'est finalement assez rare dans le cinéma, ce genre de choses.
En fait, on ressent vraiment les sentiments du personnage. Et ça, c'est un tour de force qui est énorme. Deux mots sur la 3D. Pour moi, c'est le premier film que je vois qui mérite vraiment la 3D.
Et dans lequel c'est justifié et au niveau scénaristique et plastique. Ouais.
Oui, c'est vraiment la 3D rajoute quelque chose en fait, pour une fois.
Ça veut dire que le réalisateur a travaillé avec comme objectif de faire un film en 3D, ou bien c'est que les images sont assez percutantes pour utiliser la 3D et marcher avec.
Alors en fait, il y a un truc qui est assez amusant, c'est qu'Ang Lee, en parlant de ce film-là, a dit, après avoir fait ce film-là, qu'en gros, il ne voulait plus jamais faire de film comme avant. Il voulait toujours faire des films en 3D, parce que pour lui, c'est l'ouverture vers un nouveau cinéma et un nouveau monde. Et il trouvait ça beaucoup plus intéressant de travailler de cette façon-là. Ce qui est étonnant, parce que, comme on dit, Tarantino ne veut pas entendre parler de ça. Pas mal de réalisateurs le font et se plantent à moitié. C'est pour ça que ce film a vraiment fait penser aussi à Hugo Cabret, qui est vraiment aussi ce genre de film dans lequel, là c'était Scorsese qui faisait Hugo Cabret, et dans lequel on sentait vraiment que le film était fait pour la 3D, pensé pour la 3D, et que la 3D se justifiait dans plein de plans, parce qu'elle permettait en fait d'avoir une immersion dans la tête du personnage et dans ce qu'il ressentait, et dans son environnement. Et finalement, dans le cinéma, souvent on va avoir un scénario dans lequel l'environnement ne devient pas un personnage à part entière, et dans l'Odyssée de Pi par exemple, c'est très flagrant, c'est que l'environnement est un personnage à part entière.
Concluons peut-être sur un petit sujet, c'est le tigre en question. Quel nom porte-t-il déjà, Damien?
Richard Parker.
Richard Parker, tu me le disais également hors antenne, ce tigre a l'air vraiment réel. Naturellement, tourner dans des conditions réelles avec un tigre, c'est pas possible. Donc, explique-nous un petit peu le procédé qu'ils ont utilisé.
Alors, le procédé, en fait, j'ai fait quelques recherches. En fait, j'ai des informations contradictoires. Alors, c'est très bizarre.
Enfin, t'as été voir sur Wikipédia, sur Numérama?
Non. J'ai été regarder un petit peu à droite, à gauche. D'un côté, on me dit qu'effectivement, c'est d'ailleurs, non, je crois, un dresseur français qui avait...
En fait, il y a quatre vrais tigres, dont deux femelles. Et enfin voilà.
Voilà, donc effectivement, il y a un vrai tigre.
Quatre, en fait.
Bah, quatre. Mais il y en a aussi en 3D, et notamment certaines scènes, c'est clair que ça peut être que de la 3D, parce que on ferait pas super ça.
C'est
tigre.
Le technicien en fait du monde de Narnia qui avait fait Castlan, ou je sais plus comment il s'appelle, le lion en fait du monde de Narnia, qui a bossé en fait sur le tigre en fait de ce film.
Et franchement, je sais pas pour toi Sylph, mais Seb, mais le tigre, j'ai jamais vu à aucun moment le passage entre la 3D et la réalité, et je me suis jamais rendu compte que c'était l'un ou l'autre. La seule chose que je me disais, c'était, c'est pas possible qu'on fasse subir ça à un tigre, donc ça doit être de la 3D, et je regardais, je voyais pas la différence, quoi.
Ouais, ça c'est vrai, on cherche même par moment à essayer de trouver la faille. Et
j'ai une petite parenthèse, ça, mais c'est quand même assez incroyable qu'aujourd'hui on est quand même dans au 21e siècle, les nouvelles technologies, etc. On utilise, enfin il y a un gars qui est connu dans le monde entier pour faire des animaux en 3D, et c'est le seul qu'on engage pour faire des animaux en 3D dans des films, quoi.
Mais je pense que c'est plus un studio en fait. À mon avis, ça doit être un studio qui est spécialisé là-dedans et qui doit avoir des technologies pour gérer les poils avec des moteurs physiques et des choses comme ça pour que ce soit le mieux possible.
Si on prend l'exemple de Pixar, par exemple, pour chacun de leurs films, ils développent leur propre soft et leur propre plugin pour faire tel ou tel effet. Donc, c'est pas étonnant que lorsque tout un studio a bossé pour faire les poils d'un lion, on se dise « Ah, ça peut être utile pour faire un tigre. »
Oui, en effet.
Voilà.
L'Odyssée de Pi, c'est donc le film qu'on évoquait à l'instant même. Est-ce qu'il est tout public? Est-ce que n'importe qui peut aller le voir, du petit gamin de 6 ans
Oui, et je pense que si j'avais eu 6 ans, mais ouais, même. Ouais,
si un enfant peut aller le voir aussi bien qu'un adulte.
Je pense qu'il ne comprendrait pas tout, notamment la fin de l'histoire, etc. Mais j'aurais rêvé de voir ça étant gamin, je crois. C'est vraiment. Ça vaut le coup.
Et il y a Gérard Depardieu dans le film.
C'est vrai.
Non.
Qui joue une bonne ordure.
Encore. On ne voit que 2 minutes d'ailleurs. Je me rappelle la personne avec qui j'étais le voir se posait vraiment la question, mais qu'est-ce qu'il fait là?
Gérard Depardieu, tu veux dire l'acteur belge?
Non, l'acteur russe. Monténégrin maintenant, il a la nationalité monténégrine.
C'est nouveau ça?
Ouais.
Eh bien, qu'il s'amuse bien, bien avec toutes ses nationalités. En tout cas, dans le film, il est horrible.
Aussi horrible que dans Le Fils de l'Homme? C'est dans Babylone AD.
Je me rappelle même pas de l'avoir vu dedans. Moi, je me rappelle juste de Vin Diesel.
J'ai essayé de voir le début de Babylone AD, j'ai pas réussi à aller plus loin.
C'est quand même réalisé par Vincent Cassel.
Tu m'apprends quelque chose.
Le bouquin était très chouette. Le film, je crois que j'ai même pas passé 10 minutes.
À mon avis, il faudrait faire un dossier avec toutes les apparitions de Depardieu dans le cinéma international. Mais après, il faudrait faire un dossier sur ce film-là. Il est intéressant. Il faut lire dessus. Mais enfin bon.
En tout cas, pour l'heure, c'est l'Odyssée de Pi qu'on vous conseille d'aller voir en 3D au cinéma si vous avez encore la chance de l'avoir programmé dans votre coin. Sinon, bien attendez la version 3D cinéma. Je sais pas si c'est télé, pardon. Je sais pas si c'est toujours d'actu, mais j'ai entendu que la 3D en télé était un petit peu déjà passée de mode ou pas.
Oui et non, je sais que les opérateurs continuent, alors les opérateurs, quand je parle d'opérateurs, c'est-à-dire ceux qui font la télédistribution, si vous êtes en France, c'est Free, Orange, etc., si, ou la TNT, si vous êtes en Belgique, c'est Belgacom, vous, etc. Ils essayent de le promouvoir, le problème c'est que c'est très lourd en production, c'est très lourd à faire. Même les télés ne sont pas équipées pour pouvoir le monter, pour pouvoir le travailler, donc sans parler de faire des effets dessus. Donc à l'heure actuelle, à part le cinéma, ce qui est fait par contre, c'est les matchs de foot et le sport, parce que ça, c'est tourné direct en
ça donne pas mal d'ailleurs. Ça donne limite envie de voir du foot.
Il y a un match pas loin d'ici.
Ouais, clairement.
Je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à la 3D. En fait, c'est quand même une technologie qui est assez récente. Et il y a un studio bruxellois d'ailleurs qui est spécialisé là-dedans et qui faisait pas mal de rides pour le Futuroscope, c'est-à-dire des films dans lesquels on est dans des chariots ou des choses comme ça, qui a sorti Samy notamment et Samy 2 récemment. Et en fait, dans lequel eux en fait, sont devenus limite l'exemple en fait, du film 3D et des technologies 3D utilisées. Et il y a quelque chose qu'on sait pas dont on se rend pas vraiment compte, mais en fait, ça demande vraiment une infrastructure pour être bien utilisée et être bien vue, qui est vraiment très complexe et très coûteuse surtout. Et en fait, les télévisions 3D le font un petit peu, mais à part si on met des fortunes dedans, le rendu n'est pas équivalent à ce qu'on trouve au cinéma, quoi.
En dehors de ça, l'Odyssée de Pi, allez le voir en cinéma en 3D. Je n'imagine... quand je suis sorti de là avec ma copine, on s'est dit... mais je pourrais pas le voir sur un petit écran.
Parce que t'es une copine, toi ?
Ouais, j'ai une copine. Bah, j'en ai parlé au tout début de l'ECP. Je pourrais pas le voir sur un petit écran, ça me ferait bizarre, en fait. Mm-hmm. Je n'imaginais pas en sortant du cinéma. Maintenant, à la limite, je le reverrais bien, mais en sortant, je me suis dit que c'était une vraie expérience.
Eh bien, tu as bien de la chance, parce que moi, je l'ai vu en 2D, et pendant tout le film, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas été le voir en 3D ?
Voilà, donc un film à voir au cinéma en 3D, c'était l'Odyssée de Pi avec Damien. Un grand merci à toi. On continue tout de suite avec d'autres merveilles. On continue tout de suite avec Batman The Dark Knight Returns, part 1 et 2. Alors, ça ressemble à un film, mais c'est assez méconnu dans nos contrées, et c'est Sylph qui va nous en parler.
Oui, voilà, Batman Dark Knight Returns de chez DC. Donc, c'est l'adaptation, en fait, des deux bandes dessinées qui ont été écrites par Frank Miller. Et c'est un véritable petit bijou, ma foi, qui est malheureusement pas du tout exporté par chez nous. Alors qu'est-ce qu'on pourra en dire? Bah déjà c'est très fidèle à la BD, c'est peut-être même le défaut qu'on pourrait trouver à ces deux animes, dont le dernier est sorti hier, qui sont à mon avis disponibles en DVD sur Amazon ou en Blu-ray sur Amazon. Alors bon, pour le scénario, en gros c'est Batman qui est vieux et qui a lâché la cape et le masque de Batman et qui décide de le reprendre parce que dans sa ville c'est le bordel et que la criminalité n'a jamais été aussi importante et donc il redevient le justicier qu'on connaît bien. Maintenant au niveau plastique, c'est vraiment très intéressant parce que ça reprend vraiment le traitement en fait de la BD de Frank Miller, avec un traitement très brut, très rectangulaire, fort basé sur les jeux d'ombre, etc. Et surtout, ça permet de se rendre compte à quel point les films de Christopher Nolan sont inspirés de ces bandes dessinées-là, tout autant qu'un Long Halloween et les bandes dessinées de Jeff Loeb. Et voilà, moi je peux que le conseiller à tous les fans d'anime et à tous les fans de DC. Et je voulais juste faire une petite parenthèse d'ailleurs sur quelque chose que je me rends compte que peu de gens connaissent. C'est qu'en fait, si Marvel de son côté sort énormément de films avec des acteurs connus, etc., comme ils nous l'ont fait ces 10 dernières années.
Avec The Avengers notamment.
Voilà. DC, eux, par contre, ils ont pris un pli différent, c'est qu'ils sortent quelques films sur leurs super-héros connus, mais en parallèle à ça, ils ont sorti toute une gamme qui s'appelle DC Universe, qui est une gamme d'animes, donc il y en a presque une vingtaine, ce sont tous des longs-métrages, qui sont tous plus beaux et mieux animés les uns que les autres, qui reprennent tous les grands classiques, en fait, de la bande dessinée des personnages de DC, et franchement, ils sont... Enfin, moi, je les ai presque trouvés tous réussis.
C'est vrai que moi, j'ai vu notamment Green Lantern, qui est pas un héros à la base, qui est terrible. D'ailleurs, le film, c'est une catastrophe. Et le dessin animé est génial. En fait, j'ai vraiment aimé le dessin animé. Comme Wonder Woman, etc. Il y en a toute une série comme ça qui sont vraiment intéressantes.
C'est bien un super-héros qui est bien ridicule. C'est bien Wonder Woman et le film est juste... Moi, je me rappelle être arrivé au boulot le lendemain et dire ouais, j'ai vu un film génial hier et...
Ok, bon, tu m'intéresses, mais par contre j'ai jamais été au courant de tout ça. Où est-ce que je trouve tout ça?
Mais malheureusement, moi je dois bien admettre que j'ai trouvé ça sur internet en téléchargement, ce qui n'est pas très légal, mais je crois que sur Amazon ils sont disponibles et vous pouvez vous renseigner sur un site qui s'appelle la Tour des Héros .com je crois, qui les répertorie tous et qui répertorie d'ailleurs tous les animes inspirés de DC. Et sinon, ben...
Ça c'est un peu l'annuaire des films DC dont tu parles, des films DC Universe.
Voilà.
C'est tous des animes, en fait.
En fait, ils ont sorti 20 animes sur tous les super-héros. Il y a Green Lantern, il y a des courts-métrages, il y a plein de choses comme ça. En fait, je crois que c'est un petit peu parti de... Il y a quelques années, quand le premier Batman de Christopher Nolan est sorti, je sais plus comment il s'appelle...
Batman Begins,
ouais, c'est ça. Ils ont sorti trois, quatre animes sur le Blu-ray qui racontaient des histoires en parallèle de Batman qui avait été fait par des studios japonais assez connus et dans lequel ils avaient montré différents aspects de Batman avec différents graphismes et tout ça. Et ça suit un peu cette continuité.
Ouais, je crois qu'il y a Damien qui a dit approche-toi des micros.
On l'entend très très bien,
Ouais, ouais. Mais tu dis du japonais, c'est tous les 20 là, c'est des animes réalisés par des japonais. Donc c'est
c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'ils ont lancé la gamme avec des animes faits par des gros studios japonais et en fait après ça a été repris par des studios américains. Alors notamment c'est Jay Olivia qui est l'un des DA en général de ces animes là. C'est quelqu'un qui était pas très connu avant de faire ça et qui commence vraiment à se faire un nom parce qu'il a vraiment un réel talent de réalisation et vraiment moi j'étais très surpris en découvrant ça et j'avoue que je suis devenu très friand de ces animes là et je les recherche dès qu'il y en a un qui est prêt à sortir, j'arpente le web en espérant trouver une copie ou...
Et donc c'est des animes, ils sont tous réalisés sous un même label, DC Universe.
C'est ça,
Anime,
c'est le label DC Universe.
DC Universe, en anime.
Voilà, est-ce qu'on peut les regarder facilement, je veux dire, sans être forcément fan de comics, sans avoir vu, en connaissant simplement le pitch de base.
Ça dépend lesquels. Pour information, ma copine a regardé le Green Lantern toute seule. À un moment, je sais pas, elle était sur mon Media Center et elle savait pas quoi regarder. Elle a regardé Green Lantern et elle m'a dit ouais, c'est excellent. Donc, et elle ne connaît rien au Green Lantern encore moins. Et oui, évidemment, elle a vu les Batman et comme tout le monde, quoi. Mais je pense qu'il y a pas trop de soucis. Effectivement, même si on n'est pas initié à l'univers des comics, à les regarder, ils sont vraiment chouettes. On a regardé notamment un autre avec Batman.
Pas Year One que tu as regardé?
Je ne crois pas, c'est celui avec Batman et Superman qui deviennent criminels. En fait, Lex Luthor devient président des États-Unis.
Je me rappelle plus du nom de celui-là, mais oui, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi je ne suis pas hyper fan de comics, mais en fait, je m'y suis intéressé par rapport à la série La Ligue des Justiciers et la série Batman des années des débuts années 90.
Ouais, la plus glauque.
La plus glauque, ouais. Et en fait, j'ai commencé à acheter les BD et tout ça, et notamment une BD dont je vous parlerai par la suite, qui sera peut-être même adaptée aussi dans cette catégorie d'anime. Et là, en tout cas, ce qui est vraiment énorme, c'est que moi, quand j'étais gamin, je me rappelle d'avoir feuilleté le Batman Dark Knight Return et d'avoir adoré. Il y a des répliques qui sont ultra cultes dans cette BD, c'est juste génial. Enfin, c'est Frank Miller.
Il y a surtout des cases de la BD qui sont tellement badass que...
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est énorme. Et là, on retrouve vraiment ça, mais en même temps avec une esthétique peut-être plus commune, moins trash que ce qu'on pouvait trouver dans ce truc-là, mais ça reste très très bien fichu. Franchement, pour moi, c'est un petit bijou, quoi.
Batman The Dark Knight Return, partie 1 et 2, donc un anime qu'on vous conseille chaudement de regarder, méconnu dans nos contrées, on vous l'a dit, mais à trouver c'est probablement sur internet, si pas sur Amazon, eBay et d'autres sites du même genre. Un grand merci Sylph, on continue tout de suite avec la suite. Et on parle jeux vidéo pour la première fois dans le podcast de l'œil carnivore avec Cyberpunk 2077 et c'est Sylph qui s'y colle.
Alors, Cyberpunk 2077, c'est un trailer qui a fait pas mal de bruit dernièrement sur Internet parce que, premièrement, il est magnifique et en plus, secondo, il fait l'adaptation de la licence de jeu de rôle des années 80-90 qui s'appelle Cyberpunk 2020.
et dans lequel je crois que nous sommes beaucoup à cette table et y avoir joué.
Ouais, moins deux. Avec Damien.
Déjà, bon, alors pour le speech vite fait, dans la bande-annonce, on voit une nana qui est en full body replacement, donc en gros qui s'est fait transformer en robot, qui a pété un plomb, qui a buté plein de gars dans la rue, elle se fait tirer dessus par les flics, et là il y a une espèce de super flic qui débarque et qui la ramène dans son appareil à poussée vectorielle, plus précisément l'espèce de bagnole comme dans Blade Runner. Et en gros, le principe c'est que
Il est perdu.
Elle rejoint ce qu'ils appellent l'escouade des cramés, en fait.
Il y a un nom en anglais, c'est la psychological.
Dans le bouquin de jeu de rôle, en tout cas, je me rappelle que c'était les cramés, donc c'est une escouade de la police, en fait, qui est spécialisée, en fait, dans l'extermination de tous ceux qui ont perdu leur humanité et qui sont devenus tellement des machines qu'ils pètent un plomb. Globalement, moi, j'ai pleuré quand j'ai vu ce trailer. Je l'ai regardé 8 fois ou 9 fois d'affilée, je crois, un truc comme ça.
Faut avouer qu'elle est bonne quand même. Hein.
C'est pas pour ça, moi, que j'ai regardé.
C'est pas pour ça, c'est parce qu'en fait, moi qui suis un immense fan de Cyberpunk et de Shadowrun, j'ai découvert un nombre de références assez incroyables. Et surtout, c'est CD Projekt qui adapte le jeu. C'est des projets qui ont fait Witcher 1, Witcher 2, c'est deux petites merveilles. Et donc, là, on peut attendre que du bon. Et surtout quand on voit le trailer, on sent qu'il travaille avec donc le gars qui a écrit le bouquin. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Oui, voilà. En fait, il y a Mac Pondsmith qui participe en fait au projet. Et Mac Pondsmith, c'est celui qui a écrit en fait les bouquins de Cyberpunk, le jeu de rôle. Et donc, effectivement, comme il est derrière, alors il faut savoir aussi qu'il a travaillé notamment sur pas mal d'autres jeux vidéo. Alors, j'ai plus les noms là en tête. Mais il n'est pas complètement novice en jeu vidéo, parce que parfois, lorsque un auteur ou suit un projet jeu vidéo, des fois c'est pas forcément la bonne idée parce qu'ils savent pas faire des jeux vidéo. Mais là, c'est pas la première fois qu'il le fait. Et donc là, lui est la caution de la licence. Ils arrivent avec une grosse licence attendue par pas mal de monde, parce qu'effectivement, c'est un peu que moi j'y ai joué. Sergio, tu y as joué.
Moi j'y ai pas joué, mais attendue par pas mal de monde, pas du tout. Justement, c'est une licence connue par pas mal de monde, mais qui n'était pas du tout attendue en jeu vidéo. Parce que c'est le trailer, c'est une grosse surprise. Hein. Il n'y avait rien qui était annoncé.
C'est vrai. Mais je me suis toujours dit qu'à un moment ou à un autre, ça finirait par arriver. C'est quand même CD Projekt qui est derrière. Effectivement, comme tu disais, c'était Witcher 1, Witcher 2. C'est pas seulement ça, CD Projekt. En fait, c'est une société qui date, je crois, de 94-95. Ils se sont fait connaître, en fait, en Pologne, c'est une société polonaise, d'abord en localisant Baldur's Gate, etc., tous les Icewind Dale, etc., tous les... Comment ça s'appelait déjà, cette société
GOG qui... Non, c'est pas ça que tu disais, que c'était GOG?
Non, GOG c'est autre chose. Non, la société qui éditait Baldur's Gate.
Black Isle, non, c'est pas ça.
Oh là là.
Black Isle, c'est les réalisateurs.
La colle.
De Baldur's Gate.
Ouais, la colle. Bon, peu importe. Voilà,
c'est vrai. Le bout des lèvres.
Toujours est-il qu'ils sont d'abord, ils ont fait leurs dents là-dessus. Après, effectivement, ils ont sorti la série des Witcher. Là, ils arrivent avec une grosse licence. On les attend un peu au tournant. Bon, c'est juste pour 2015, je crois. C'est ça.
On a d'autres infos sur le jeu ou pas?
Il y a une image. En fait, on a aucune info presque sur le jeu à part ce trailer. Ce trailer, c'est un trailer de recrutement, parce qu'en fait, en gros, comme il l'a dit, il y a une image subliminale à la fin dans laquelle ils disent que le jeu sort en 2015, et en gros, ils veulent donner envie aux gens de venir les rejoindre pour bosser sur ce jeu.
D'ailleurs, quand on suit le lien en dessous de la vidéo YouTube, on arrive sur leur site, et qu'est-ce qu'il y a en gros panneau sur la droite du site? T'as une énorme annonce de recrutement, et ils recrutent au moins 15 personnes.
Ouais, mais sur la dernière image, d'ailleurs, sur une toute dernière frame en fait, du trailer, il y a tout un texte qui est planqué. Et clairement, ils disent, voilà, si vous avez du talent, si vous savez dessiner, si vous êtes amateur du style, contactez-nous. Je crois qu'ils ont vraiment besoin de...
C'est pas mal comme annonce de recrutement. On a vu pire comme petite annonce. Hein.
Il y a déjà des journalistes qui ont déjà commencé à essayer de décortiquer tout ça et qui essayent de savoir un peu le fric qu'ils vont mettre dedans.
Ouais.
Parce qu'ils savent pas... Visiblement, s'ils lancent un projet comme ça, c'est qu'ils ont quand même trouvé des mecs qui sont prêts à mettre de l'argent dedans. Et d'après le nombre de personnes qu'ils engagent et les qualifications des gens qu'ils demandent, ils sont prêts à mettre quand même pas mal d'argent.
Mais attention, CD Projekt, ils ont un petit Steam, un petit Valve en essence, puisqu'ils ont leur propre plateforme de vente en ligne qui s'appelle Good Old Game, donc GOG, mm-hmm. Sur lequel on peut d'ailleurs trouver tous les vieux jeux auxquels on a pu jouer dans les années 90, et voire même maintenant des jeux plus récents. Et je pense que ça leur permet aussi de financer leur futur projet. Witcher 3 va sortir normalement l'année prochaine, je crois,
c'est dans l'image qu'on voit à la fin, ils en parlent en fait.
Le 5 février, ils vont lâcher des infos sur Witcher 3 apparemment.
Voilà. Attends, qu'est-ce que tu me dis? C'est quand même révolutionnaire. Enfin, moi j'étais pas du tout au courant, donc c'est goodofgog.com, ça appartient à CD Projekt.
Oui,
c'est
oui.
eux qui ont lancé le projet.
Ouais. Oui, c'est eux.
C'est le site de référence pour trouver. C'est un site qui te permet de trouver tous les vieux jeux que tu cherches et tu peux les commander.
Ouais, là, les jeux Interplay
bien,
en fait.
Bien souvent,
voilà, c'est Interplay. Voilà, c'était Interplay.
Bien souvent, c'est en DRM free en plus hein, chez eux.
Ils ont des conditions de vente qui sont incroyables parce qu'il suffit que tu leur donnes le numéro de série d'un vieux jeu que tu as. Et par exemple, si ce vieux jeu fait partie d'un de leurs bundles, t'as le bundle à un prix réduit parce que t'as déjà un des jeux du bundle, par exemple.
Ils ont une bonne approche en tout cas de ce marché-là.
Et c'est vrai que ça peut leur donner la même assise que Valve
avec Steam.
Steam, c'est un mastodonte maintenant de la vente en ligne, je pense, mais disons que c'est un petit Valve en essence, même si c'est pas exactement la même chose.
C'est une niche quand même, hein. GOG, c'est une niche, hein.
Oui, mais tu connais beaucoup de studios qui ont leur propre système de vente en ligne qui leur permet de récupérer de l'argent pour produire leur propre...
C'est pas vraiment connecté.
Je voudrais juste recentrer le sujet par rapport à Cyberpunk. Ce qui est vraiment intéressant en fait par rapport à ce qu'on a vu dans cette bande-annonce, c'est que c'est hyper pointu. C'est-à-dire que moi, en tant qu'asset du jeu de rôle, j'ai acheté tous les suppléments, tout le bazar, j'ai suivi l'évolution, j'ai rencontré les concepteurs, etc. En tout cas, certains écrivains qui avaient bossé le truc, pas le principal, mais les autres... C'est très pointu. Et ça, c'est rare dans un jeu vidéo. Je pense à l'adaptation immonde de Shadowrun qui a été faite par Microsoft il y a quelques années sur Xbox 360. C'était à pleurer. On voit vraiment tous les points, en fait, sont très précis. Déjà, la ville qui va être modélisée, c'est Night City. Déjà, ça, c'est un vieux rêve pour tout rôliste. Ensuite, secondo, toutes les petites références, les affiches qui viennent des extensions, du guide de Night City, des Chromebooks, le flingue, le look de la fille qui correspond à une illustration qui était dans un des bouquins, ainsi de suite. Enfin, je trouve ça vraiment génial qu'ils puissent être précis comme ça et vraiment qu'ils aient une telle envie d'adapter le jeu de rôle d'origine avec tout ce qui faisait sa particularité et son identité. Moi en tout cas, je crois que ce jeu-là sera vraiment exceptionnel.
Tu peux encore décrypter peut-être d'autres références comme ça que moi par exemple j'ai pas du tout vu parce que je suis pas vraiment initié à.
Il y a le flingue par exemple.
Il y a le costume des policiers qui est vraiment le même que celui qu'on trouve dans le.
C'est
des
psychocorps, je crois.
Un truc comme ça. Le casque que le mec met, c'est vraiment un truc qu'on peut acheter dans le jeu de rôle, enfin qu'on peut acquérir dans le jeu de rôle. Le véhicule, c'est un véhicule qu'on retrouve dans le jeu de rôle.
La fille sur l'affiche, je crois que c'est une chanteuse ou un truc comme ça qui est assez
connu. La fille sur l'affiche, elle est dans le guide de Night City. En fait, effectivement, c'est une chanteuse connue dans l'univers de Cyberpunk. Enfin, il y a plein de petites références comme ça à gauche et à droite. Je les connais pas toutes. Mais là, on se dit vraiment... Moi, quand j'ai vu ce trailer, je me suis dit waouh, les mecs, ils ont pas envie de faire un jeu de rôle sur Cyberpunk. Ils ont envie de refaire Cyberpunk en jeu vidéo, quoi.
C'est ce que disait Mac Pondsmith, c'est que en fait la plupart des gens de chez CD Projekt ont joué à Cyberpunk en fait. Et c'est ça qui l'a surpris. Et au début, il se disait ouais, c'est qui CD Projekt parce que c'est pas la première fois qu'on lui propose d'adapter Cyberpunk. Et en fait, quand il en a parlé autour de lui, on lui a dit mais t'es fou, CD Projekt, c'est le Valve européen. Complètement.
Je suis quand même, j'ai quand même une petite réticence parce que GOG c'est une niche, c'est-à-dire qu'ils vendent des vieux jeux. Donc ça marche très bien, c'est vachement respecté, je les trouve. Ils ont une qualité commerciale qui est excellente, mais ils vendent pas Witcher sur GOG.
Si, il est en vente sur.
Enfin bon, en tout cas, Witcher ils sortent de leur bibliothèque traditionnelle parce que ils vendent
non, il y a des gens de jeux récents en fait dedans.
Hein. Oui, c'est un sujet qu'on ne manquera pas d'aborder, notamment entre Steam, Valve et autres. Il y en a beaucoup, hein, ils viennent de plus en plus. C'est un marché qui est.
Il y a Origin aussi.
Voilà, il y a la belle Origin, n'est-ce pas ? Qui nous enchante sur Battlefield 3, n'est-ce pas ? Non, c'est un sujet qu'on ne manquera pas d'aborder. En tout cas, Cyberpunk 2077. Moi, pour avoir un petit peu connu l'affaire, là, je redécouvre en effet le sujet, donc j'espère que ça vous a donné l'envie d'aller voir ce trailer, parce que vous pouvez le retrouver naturellement sur le blog de l'œil carnivore et un petit peu partout sur le web. Vous allez le voir d'un œil différent grâce à Sylph et à Damien. Un grand merci, les amis. Les amis, l'heure est grave aujourd'hui car nous allons parler de... Star Wars, et avec pas n'importe qui, avec Luke himself.
Oui,
ton père.
En guest star.
Bon allez, lâchez toutes les feintes que vous pouvez sur Luke là. On a le temps.
Tu t'as pas la tête de Marc Hamill.
Et Luke, c'est quoi?
Non. Je suis ton père. Ah.
Nous allons parler de Star Wars Cookbooks, le livre de cuisine Star Wars.
Oh, la cuisine, hein. Ça va pas bien loin, donc c'est un petit bouquin, un petit truc... tout petit, une trentaine de petites recettes rigolotes pour faire des petits plats, on va dire. Allez, ça va de l'omelette aux cookies en passant par le soda.
Ah ouais, le soda Star Wars.
Ah, il y a du soda, non, c'est le soda Yoda.
Soda Yoda.
Le Yoda. Alors, c'est pas le soda Yoda, c'est le Yoda soda.
C'est,
ou soda Yoda le.
Retrouver, oui.
Pas. Voilà. Hein. Buvez ce Yoda.
Il est vert au moins.
Au hasard. Le granité du Vampa.
Ah.
Et le breuvage midi-chlorien.
Ah,
c'est pas mal le truc à base d'herbe là-dedans.
Parce qu'en fait, bon, le bouquin en lui-même, bon, ça va, c'est un énième bouquin sur le thème de Star Wars, mais ce qui est encore un peu fun là-dedans, c'est que c'est plus pour les plus jeunes. C'est des noms rigolos sur des recettes toutes simples qui prennent même maximum 20 minutes à faire. Et ouais, c'est plus un truc pour les gosses, pour rigoler un peu. Ça vient dans un petit coffret rigolo avec des... des merveilleux petits moules à cookies.
Ah ouais, ils ont quelle forme?
On a le Dark Vador.
Ah, je pensais que c'était un cœur vu de loin, moi.
Non, c'est un Dark Vador.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Tu le regardais pas dans le bon sens.
Voilà, le Yoda.
Quoi
et...
Attends, ce serait le et moule le... de ton père?
Mais absolument.
Ne répète pas ton papa, hein,
j'ai rien. Papa fait des cookies. Et le R2D2.
C'est incroyable qu'ils aient sorti R2D2. Ce truc, quoi. Je savais que pour les Desperitos Wives, ils avaient sorti un cookbook, quoi. Mais là, Star Wars, faut le faire. Quoi.
Ah, t'as aussi des moules avec les Desperitos.
Avec les moules, ta-da-da. Tu veux dire. Un moule des moules, oui.
Ta-da-da-da.
Voilà, ça
c'est la
fait.
Fin du jour.
Donc voilà, petit bouquin rigolo si vous avez envie de rigoler un peu.
Attends,
avec,
j'aimerais quand même que tu nous trouves une recette de Dark Vador.
Ah, mais il y a... C'est pas la plus marrante.
Parce que Dark Vador, il doit quand même galérer pour bouffer, non?
Ouais, allez, voilà. Bah,
c'est quoi le truc le plus dingue?
Bouffer avec une paille.
Ouais. Une omelette amidala.
L'omelette amidala.
Ah, ça quand même. C'est très appétissant. C'est quoi le truc le plus dégueulasse qu'on peut trouver dedans, par exemple? En termes de nom, bah. Hein.
La bouffe de Yoda,
ça doit être le sorbet de l'odieux Sidious.
Ça
donne quand même pas spécialement envie de l'essayer.
Est-ce qu'il y a le festin du Sarlacc?
Il y a un truc avec le Sarlacc, mais c'est. Non, ça va encore, je crois, en fait.
N'empêche, franchement, mettre sorbet et Dark Sidious, je trouve que ça correspond pas du tout.
C'est vrai.
Ah bah, effectivement, c'est le soda Yoda, voilà.
Mais le soda Yoda, oui. Non, donc soda Yoda. Soda Yoda, le...
Et c'est vert, c'est ça?
Et c'est... Oui.
Je l'avais dit, hein, qu'il y avait de l'herbe là-dedans.
Forcément.
Voilà. Donc, et alors, il y a quoi dans le soda Yoda?
Dans le, du citron vert et du sorbet au citron.
Ah, d'accord.
Et du, super, quoi. De l'eau gazeuse.
Mais Yoda, il trouve pas ça sur sa planète?
Mais si, mais c'est parce qu'il faut bien chercher.
Ah, les cookies, cookies. C'est marrant, ça.
Et alors,
les cookies Wookies, ouais,
les cookies Wookies en couverture.
Cookies Wookies, donc ils sont des bêtes cookies.
Bah,
mais
c'est connu, hein, les Wookies,
c'est juste la couleur du Wookie. Non.
Est-ce qu'il y a une recette de Jabba?
Ça sera plutôt du flan, non?
Une gelée, peut-être.
Elle est Jedi, il mange quoi?
Je regarde s'il y a quelque chose sur Jabba, mais.
Luke?
Pas d'impression.
Luke? Et il n'y a pas un.
Les Jedi, peut-être?
Quelque chose, par exemple,
non.
Qui serait...
Les Jedi.
Comme ton père.
Bon, je crois qu'on va arrêter. Hein. Alors, un petit coffret rigolo, une quinzaine d'euros dans toutes les bonnes librairies galactiques.
Ça se trouve, comme chez nous Bon, on s'en fout, on a un podcast. La Fnac et tout le bazar?
Oui, ouais, ça se commande sur Amazon. Ça se trouve... en l'occurrence, celui-là, je l'ai trouvé chez Filigrane.
Filigrane.
D'accord. Ouais, et sinon, il y a ça chez ton père?
Non, lui, il l'a pas.
Bon, je crois qu'on va arrêter, besoin, on va arrêter avec les feintes.
Donc, cuisine pour lui.
Je te comprends parce que mon nom de famille est Luc aussi.
Moi, à ta place, je me foutrais pas de la gueule de son père.
Ah, d'accord.
Il peut te buter à distance.
Bah ouais, c'est ça. Non, mais il peut t'étrangler, te décapiter. Il a quand même une épée laser. Ouais. Faut pas déconner.
Et en plus, il est dans l'étoile noire. Alors, si tu fais mal, il va tout faire péter.
Faudra se méfier. Hein.
Et tu le conseilles à qui, en fait?
Bah, comme j'ai dit, c'est quelque chose de plutôt ludique. Donc, c'est pas pour les fans parce que ça, c'est plus une blague sur la licence qu'autre chose.
Tu sous-estimes les fans de Star Wars, je pense. Là.
Non. Je sous-estime les gens qui pourraient être intéressés potentiellement par le bouquin. C'est beaucoup de conditions.
Est-ce qu'on peut se nourrir
comme
juste
ton
avec
père,
ce qu'il y a dans le bouquin?
Oui, mais très mal.
On peut survivre avec ça?
Oui. Au niveau calories, il y a moyen. Oui, c'est d'accord. Sûr.
Okay. Est-ce qu'il y a des chouettes dessins ou des chouettes illustrations?
Il y a des petites photos qui sont en général faites, ces petits montages qui sont faits avec les résultats de la recette et des petits personnages, les petites figurines, quoi. Donc,
Ah, c'est avec les figurines. T'as pas
figurines
des illus
de ton père?
Tu vois les personnes.
On va couper court. Non, les gars, notez à vous-même qu'on ne parlera plus de Star Wars dans ce podcast.
cacher dans cette partie-ci, c'est qu'en fait, il faut noter le nombre de fois qu'il y aura le mot Luc et père.
Voilà. Retenez bien ce numéro, ça fera l'objet d'un concours futur.
Voilà, exactement.
Star Wars Cookbook, le livre donc de cuisine de la franchise Star Wars, une quinzaine d'euros, comme on l'a dit, trouvable
dans toutes les bonnes crèmeries.
Présenté par Luc
Amazon,
et son père.
Etc. Et notamment chez Filigrane, où Luc, le fils de Darth Vader, l'a trouvé. Merci beaucoup, Luc, pour cette découverte. Et on parle littérature également, et plus précisément de BD avec le dernier Batman qui se nomme Amère Victoire de Jeff Loeb, et c'est à nouveau Sylph qui va nous en parler.
Voilà, Batman Amère Victoire, c'est une bande dessinée de Jeff Loeb et de Tim Sales qui sont bien connus pour l'excellent Batman Un Long Halloween, qui était sans doute l'une des meilleures bandes dessinées sur Batman qui soit sortie ces dernières années.
C'est clair.
Je vous épargne le speech parce que globalement ça prend des références par rapport au premier et ainsi de suite, donc je crois franchement pour l'avoir lu qu'il vaut mieux avoir lu la première. Maintenant, moi je voulais vraiment parler parce que elle est sortie assez récemment finalement par chez nous, je crois que ça date d'il y a 4-5 mois au maximum, et c'est un petit bijou scénaristique de mise en page, de cadrage, enfin tout ce qu'on peut trouver comme superlatif sur une bande dessinée. C'est très bien écrit, c'est très intéressant, c'est très long, ça fait plus de 200 pages je crois. Et c'est suffisamment rare de trouver des écrits sur Batman qui soient vraiment intéressants, dans lesquels on retrouve tous les personnages principaux de la mythologie de Batman, que ça va du Joker jusqu'à Solomon Grundy. Et voilà, je ne peux que conseiller cette petite merveille, qui d'ailleurs prend pas mal à contre-pied les gens qui sont habitués des comics, parce que ça ressemble finalement plus à une bande dessinée traditionnelle, d'autant plus que la plastique est très spéciale. Donc ça, il faut, je dirais, les personnes qui s'y intéressent, feuilleter un petit peu avant, mais ne jugez pas que sur vos premières impressions, parce que c'est vraiment assez énorme au niveau scénario. Et surtout, ça suit, je voulais parler de celle-là, pour reparler aussi d'Un Long Halloween, qui vraiment est aussi une petite merveille.
Oui, ça c'est clair. C'est vraiment une des meilleures BD sur Batman.
Ça se trouve à quel prix justement ? Parce qu'on parlait du volume, pas loin de 300 pages.
Malheureusement, c'est 35 euros.
35 euros. Mais
ce qui est pas si cher, franchement, par rapport rapport qualité-prix, qualité-poids, on va dire. Ça vaut
quand on regarde une BD classique cartonnée, c'est 10-13 euros environ.
C'est quand même cher. Mais est-ce que, pour en parlant, donc les gens, disons le liseur lambda qui risque d'être un petit peu dépaysé, alors quelqu'un qui connaît déjà les BD Batman, qui a lu les Halloween et qui a l'habitude des BD de Frank Miller, qui sont assez noirs, ça se met sur le même chemin, ou bien c'est différent ?
Ça pourrait. Je trouve que ça ne jure pas vraiment avec les bandes dessinées de Frank Miller. La différence, c'est que Frank Miller est dans quelque chose de très dark, très crade, très trash. Ici, on est plutôt dans quelque chose c'est plutôt une enquête en fait, et c'est pour ça que je conseille vraiment aux personnes qui n'ont pas lu Un Long Halloween de lire d'abord Un Long Halloween, parce que sinon il y a des éléments des subtilités scénaristiques qu'on perd.
Est-ce qu'il est aussi volumineux que ce nouvel épisode?
Ouais.
Est-ce que tu peux juste résumer la série des Long Halloween, parce que je crois que...
En fait, la série d'Un Long Halloween, il y a un tueur qui tue les gens à des dates précises lors d'événements en fait nationaux comme Noël ou Thanksgiving, etc., et en fait qui tue des mafieux.
Membres d'une famille de la mafia.
Des membres d'une famille de la mafia qui se fait appeler Holiday, si je me rappelle bien, c'est ça?
Oui, je crois que c'est ça, ouais.
Et donc Batman enquête sur ce tueur et essaie de trouver qui c'est. Alors c'est assez marrant parce qu'on se rend compte aussi, un petit peu comme le film d'animation dont je parlais tout à l'heure, à quel point en fait tous les films de Batman récents de Christopher Nolan sont inspirés de ces bandes dessinées-là en fait. Bah, on retrouve vraiment plein d'éléments. Clairement
dans le Dark Knight de Nolan, donc le deuxième entre Begins et Dark Knight Rise, c'est complètement inspiré d'Un Long Halloween. On retrouve toute l'histoire d'Harvey Dent, je crois en Gotham City, etc., etc. Il y a énormément de choses qui étaient intéressantes dans le film parce que en fait, scénaristiquement, ça a été pris de cette BD. D'ailleurs, si vous l'achetez, Christopher Nolan fait une petite dans les dernières éditions, il fait une petite préface dessus en expliquant.
Nolan vient chez vous.
Voilà, il vient chez vous en personne et voilà. Non, en tout cas
déguisé en Batman.
Voilà. Déguisé en Batman.
Bon ça.
Ça c'est quand même, ça c'est une belle offre, hein. Faut pas rater ça.
Mais en Batman, il est noir comme par exemple un grand héros de cinéma qui.
qui pourrait être ton père, Luc. Je pense qu'on a trouvé la running joke de Luc.
Je vais m'en aller.
Batman, amère victoire. Dernière question.
Oui, non, c'est ça. En fait, moi, je voulais y revenir parce que j'ai beaucoup lu les BD de. Tiens, j'ai un blanc, c'est incroyable.
De Frank Miller.
De Frank Miller. Et donc, les All Long Halloween, c'était un peu moins grand public que celles de Frank Miller, qui sont très très connues. Est-ce que. Enfin, c'est la mère victoire d'ici. La merde victoire, mon Dieu. Amère victoire de Jeff Loeb, c'est un peu moins connu, ça passe peut-être sous le radar de pas mal de librairies.
Encore une fois, c'est un petit peu comme Dark Knight Returns, c'est vraiment. Peu de gens connaissent par ici, mais aux États-Unis c'est super connu. Jeff Loeb, il est vraiment extrêmement connu pour ses dessins et son graphisme, etc. Pardon, pour son scénario. Et Tim Sale, c'est très connu pour son graphisme, en fait. Il a un graphisme très particulier et c'est pas la première fois qu'il adapte un super-héros en comics. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que c'est limite on a l'impression de lire un roman. Ce qui est différent de Frank Miller, dans lequel Frank Miller était plus dans une espèce de bande dessinée, enfin plus dans un comics avec les rebondissements qu'on peut lui connaître, beaucoup de bastons, etc. Ici, finalement, on est plus dans une enquête policière. C'est vraiment comme un livre. C'est ça qui est vraiment intéressant.
Oui, le scénario est super chouette. Bah, moi, j'ai pas lu Amère Victoire et j'espère le découvrir bientôt. Mais Un Long Halloween, c'est vraiment l'histoire est vraiment intéressante parce que Batman ne sait pas qui est ce meurtrier. Il le cherche et on le cherche avec Batman. Et c'est vraiment bien fait. Le style graphique est le même.
Le style graphique est le même, le dessinateur est le même de toute façon.
Parce que c'est vrai que moi je l'ai acheté en édition de luxe, Un Long Halloween, donc en grand grand format, parce que c'est tellement magnifique. Moi en tout cas j'aime beaucoup le graphisme d'Un Long Halloween et je pense qu'à Mère Victoire je vais me pencher dessus.
Batman à Mère Victoire, donc qui fait suite à Un Long Halloween, donc une suite qu'on vous conseille largement, 300 pages en moyenne l'édition, 35€ tout de même, mais ça vaut le coup d'œil. Un grand merci Sylph, Damien et Luc forcément, et Matt aussi pour sa participation à cette petite chronique. Et voilà donc qui conclut le premier épisode du podcast de L'Œil Carnivore avec Damien, Luc, Seb alias Sylph et puis Matt, notre invité du jour, hein, chroniqueur de eSport Talk,
t'as vu,
n'est-ce
je suis
pas
un invité.
C'est l'invité du jour.
La classe.
En fait, il est invité partout, lui, c'est même plus un invité. C'est un truc comme
une incruste, en fait. Je suis juste une grosse incruste.
C'est le squatteur, en fait, il dort ici.
Il vit dans le studio. C'est pour ça qu'il était content.
Il a des bonnes blagues. Hein. Quand il en tient une, il la lâche.
Ouais, ouais. Quand j'en tiens une,
lâche ta blague.
La lâche pas. Quoi, tu voulais parler de.
Mais oui, tu sais bien.
Des origines de Luc.
Mais oui, c'est pas
qui
qui de, je sais pas, par exemple, des parents de. De
mais de, oui, tu sais bien de qui
de
on parle.
Ton père.
Ah, lui, c'est lui.
Lui.
Mais c'est pas la musique de Dark Vador, ça.
Ah, mais non, je l'ai pas, celle-là. Non, vous l'aurez compris, on aborde un peu tout et n'importe quoi tant que ça couche. Ça couche. Voilà, ça commence bien. Il fallait faire un fail dans ce numéro, mais voilà, je l'ai fait quand même à la dernière minute de présentation, n'est-ce pas?
Voilà, tout est foutu.
On aborde.
Il faut retourner le podcast
depuis le début.
Le podcast des débiles, les carnivores, pour vous servir.
On a fait quoi? On a fait.
Avec le fils de Dark Vador.
Et ouais. On a parlé un petit peu de tout, on va parler dans le futur. Damien, est-ce qu'il y a d'autres sujets éventuellement que vous abordez régulièrement sur le blog ou à venir dans les podcasts?
L'idée effectivement de Le Carnivore, c'était votre dose quotidienne de pourquoi pas. Donc on s'intéresse à plein de choses, on est assez éclectique, pas mal dans l'univers geek, il faut le reconnaître quand même. Et donc, continuez à nous suivre.
Notre page Facebook aussi, où on pose des choses plus en direct sur l'actualité, où on n'a pas toujours
le temps
de faire
des articles. Vous pourrez demander à Luc qui est son père.
Oui, voilà.
Des lol questions ouvertes.
En fait, on comptait reconvertir le site en mettant des lol cats.
Des lol cats.
Voilà. Non, mais parce que c'est ça qui fait de l'audience, hein. C'est ça le problème.
Bien sûr. Des lol cats, ça vend. Il faut le dire.
Photographié par eux-mêmes.
Voilà, des lol cats avec des pièces de Dark Vador.
Ici, il y a un chat, évidemment.
Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est une aventure qui tient depuis quoi, un an et demi maintenant.
Tout doux.
Et donc, on passe à la vitesse supérieure avec un podcast. J'espère qu'on arrivera à tenir le rythme d'au moins un par mois, avec peut-être quelques hors-sujets.
C'est une promesse,
mais
ça
doit pouvoir se faire.
Vous êtes ouvert à d'autres invités, pas comme Matt, mais d'autres invités.
Non, d'autres invités. Normalement, je devrais avoir un interview de l'auteur du Puits des Mémoires. À la prochaine émission, j'espère bien.
Qui est un livre.
Alors, c'est un livre d'heroic fantasy écrit par un Français et c'est Vraiment chouette à lire, je vous conseille de le lire. Il y a 2 tomes qui sont déjà sortis et le 3e sort en mars. Et donc, rendez-vous au prochain épisode pour vous en parler.
Prochainement, d'ici un bon petit mois. Voilà.
On part demain.
Je pense qu'on va arrêter avec ce sujet.
Quelqu'un m'a appelé.
Un grand merci à Damien, aka le Poulpe Vert, à Seb. Est-ce que tu as un pseudo, Seb ?
Oui.
C'est Sylph. D'accord, lui c'est pas Seb, lui c'est le Seb. Luc !
Luc, as-tu un pseudonyme ? T'as pu oublier son prénom ? Ouais, incroyable !
C'est le pseudo Luc.
Luc,
Skywalker.
La puissance du pseudo Luc.
C'est l'homme qui a de la chance.
Voilà. Ah oui, sauf qu'il sait pas qui est son père, c'est un peu triste.
Ça, c'est pas de chance.
Bah si, il sait qui c'est, mais maintenant.
Ah, ouais,
tu l'as spoilé, là, du coup.
Ouais, c'est vrai.
Tu vas l'assumer maintenant, quand même, parce que maintenant t'as un marmot sur le dos. Fais-moi le malin, d'un coup.
Aussi, un grand merci à Sylph qui a abordé pas mal de sujets ce soir, alias, vous l'aurez compris, Seb, en tout cas, c'est son vrai nom.
Non. C'est alias Sylph, on dit pas Sylph.
Ouais,
alias
mais bon,
Seb,
tu m'as compris, quoi. Tu vois, il fallait que je trouve un truc pour me sortir de mon erreur, quoi, tu vois. Mais bon, il faut tout préciser. Et merci à Mathieu, forcément, qui n'en rate pas.
De rien.
Je suis
allez,
ton père.
À tout bientôt, les amis. Ciao, ciao.
À bientôt.
Ciao.